Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous, oui c'est vrai. Des fois j'oublie de dire bonjour à tous.
Oui, parce qu'on n'est pas que entre nous finalement.
C'est vrai, on n'est pas que entre nous. Je pense qu'on nous pardonne si des fois on oublie un peu.
J'espère.
Alors c'est notre 23e épisode d'Asialogie aujourd'hui.
Oui.
Et on vous emmène au Japon, chères auditrices et auditeurs. On vous emmène aussi à l'opéra.
D'accord.
Et pour commencer...
Non, j'ai pas la tenue.
T'as pas la tenue, non, t'as pas mis ton smoking, tout ça, ta tenue adaptée, moi non plus. Mais bon, l'opéra, c'est pour tout le monde et tout le temps.
C'est vrai.
Donc on part à l'opéra ce soir pour parler du seul opéra qui parle du Japon,
oui.
C'est Madame Butterfly.
Uh-huh.
Voilà, et on va donc parler de la culture du sacrifice aussi avec toi Didier, puisque tu vas nous éclairer sur ce que sont les kamikazes, qui sont des guerriers bien particuliers.
Ouais, j'essaierai. Bon alors du coup, maintenant partons à l'opéra.
Oui.
Alors, qui déjà a composé Madame Butterfly? Commençons par là.
Oui, c'est un peu incontournable.
C'est ça.
Il faut quand même qu'on parle un petit peu de Giacomo Puccini.
Exactement.
Qui est né... en 1858 et mort en 1924, à 66 ans. Donc on peut dire que c'est un compositeur d'opéra contemporain.
D'accord.
Il est l'un des plus grands compositeurs d'opéra italien.
Ok.
Né en Toscane d'une famille de musiciens. Alors ça aide toujours hein, quand même.
Ouais, j'imagine.
Voilà. Et il va poursuivre des études musicales, encouragé beaucoup par sa maman, et va décider de se consacrer à l'opéra après avoir assisté à une représentation d'Aïda de Verdi.
Ouais.
Bon, un des plus beaux opéras, on le sait.
Ça peut marquer.
Alors, il a commencé par écrire deux opéras, mais ça n'a pas marché. Et c'est avec le succès de Manon Lescaut, en 1893, que va débuter sa reconnaissance internationale.
Ok.
Alors, il aura ensuite ses chefs-d'œuvre très connus, hein, La Bohème.
Bien sûr.
Magnifique. Tosca. Ça, c'est en 1900. Et Madame Butterfly, en 1904. Et son dernier opéra, c'est Turandot, qui était inachevé et qui a été... il est moins connu.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, il n'a pas été composé complètement par Puccini, puisque c'est un autre musicien... qui a pris sa suite.
Okay.
Et un musicien qui s'appelle Franco Alfano.
D'accord.
Voilà, donc c'était l'année de la mort de Puccini.
J'imagine bien, d'accord.
Alors, sa vie à Puccini a été marquée par des succès, mais aussi par des épreuves personnelles, tragiques, qui l'ont sûrement inspiré. Il a vécu une relation tumultueuse avec Elvira Gemignani, qu'il va épouser.
Ouais.
Et leur mariage sera relié à des scandales, notamment le suicide de leur domestique, qui était lié au comportement toxique d'Elvira. Voilà. Alors, Puccini va mourir le 29 novembre 1924 à Bruxelles.
D'accord.
De complications liées à un cancer de la gorge.
Mmh.
C'est un peu tragique pour un compositeur d'opéra.
C'est vrai.
Et il laisse derrière lui un héritage immense. Ses opéras continuent d'être parmi les plus joués dans le monde entier, et particulièrement Madame Butterfly.
Okay.
Et il est considéré, Puccini, comme le dernier grand maître de l'opéra italien. Il a su allier tradition et modernité dans ses œuvres et touche toutes les générations.
D'accord. Alors dis-moi Corinne, pourquoi Puccini a écrit Madame Butterfly simplement?
Très bonne question Didier. pourquoi a-t-il écrit un opéra sur le Japon?
Exactement.
Alors il l'a écrit, Madame Butterfly, après avoir été fasciné par l'histoire d'une jeune geisha abandonnée par son amant occidental.
D'accord.
Alors c'était une histoire racontée dans une pièce de théâtre écrite par David Belasco, qui était elle-même inspirée d'une nouvelle d'un Anglais, John Luther Long. Et la pièce, jouée à Londres en 1900, a captivé Puccini, très ému par l'intrigue et le destin tragique de l'héroïne, Chōchō-san. qui était abandonnée, mais qui était restée fidèle à son amour.
D'accord.
Alors Puccini était très sensible aux drames humains et avait le don d'exprimer ses émotions au travers de sa musique. On le ressent bien. Enfin, la Bohème Tosca, c'est aussi des chefs-d'œuvre incroyables. Alors à noter qu'il était particulièrement attiré par les histoires de femmes fortes confrontées à des situations tragiques. On l'a vu. D'un Tosca, la Bohème, tout ça. Et le personnage de Ciocio San correspondait donc parfaitement à son style dramatique.
D'accord.
Et ne pas oublier aussi qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e, l'Europe était aussi fascinée par l'Orient et ses cultures mystérieuses. Hein, le fameux orientalisme qu'on retrouve chez tous les artistes français, que ce soit les peintres, la littérature,
c'était
la musique.
C'était la grande mode. C'est sûr.
La grande mode. Alors Puccini, comme beaucoup de ses contemporains, était attiré donc par ces thèmes exotiques et il a donc cherché à retranscrire l'atmosphère japonaise dans son opéra en y intégrant des éléments de musique traditionnelle authentique.
Ah oui.
Pour donner un caractère unique à l'œuvre. Oui, si on écoute bien, on retrouve la musique traditionnelle japonaise.
Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et peut-être pas tout, je ne sais plus. Donc il va falloir que je m'y remette.
Oui, il faut réécouter Madame Butterfly, vraiment. Et cela lui a permis de se renouveler et d'approfondir des thèmes universels comme l'amour, la trahison et le choc des cultures. Et j'insiste là-dessus.
D'accord, alors donc Puccini était inspiré lui-même. Mais alors du coup, Madame Butterfly, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie?
Ah non, Didier, je te déçois, je suis sûre.
Non, mais au moins je suis au courant maintenant.
Voilà. Oui, mais bon, je ne vais pas vous décevoir tout à fait, toi et les auditeurs, parce qu'en fait, son histoire à Madame Butterfly s'inspire d'événements et de contextes réels qui lui donnent de l'authenticité.
Ça a été romancé, mais c'est tiré d'histoire, enfin de choses véridiques.
Il y a eu beaucoup de Madame Butterfly.
D'accord.
Et c'est donc bien une fiction, mais tirée de sources littéraires, influencée par des réalités culturelles et historiques du Japon de la fin du 19e, début du 20e, bien sûr. Alors, quelques mots sur la nouvelle de John Luther Long, écrite en 1898, il s'est inspiré de récits rapportés par sa sœur, qui avait vécu longtemps au Japon, ainsi que des écrits sur des mariages temporaires entre étrangers et geisha.
Ah, alors, mais les mariages temporaires, j'ai besoin d'en savoir plus.
Alors, ça se pratiquait donc au Japon, mais ça s'est pratiqué dans beaucoup de pays, et je crois que ça se pratique encore... dans certains pays, comme l'Iran.
Oui, oui. D'accord.
Oui, oui. Alors, figurez-vous qu'à cette époque, donc des fins du 19e, début du 20e, les mariages temporaires étaient courants. Ils concernaient des marins, des diplomates, les militaires étrangers, avec des japonaises et souvent des geishas. Alors, ces mariages, parfois arrangés par des entremetteurs grassement payés...
J'imagine bien, oui.
Voilà. Permettaient aux étrangers de vivre une relation stable pendant leur séjour et se terminait souvent par l'abandon de la femme lorsque l'homme repartait. Moi, je trouve ça vraiment horrible.
Oh oui, ça, il n'y a pas de doute.
Et Madame Butterfly explore donc les différences de culture entre l'Orient et l'Occident et les déséquilibres de pouvoir liés à la colonisation.
Ouais, d'accord.
Donc c'est quand même presque politique, Madame Butterfly.
J'entends bien. Alors du coup, maintenant... Concentrons-nous sur autre chose. Entrons plus encore dans l'opéra.
Oui.
Qui sont les personnages et quelle est leur histoire en fait?
Alors il y a d'abord notre héroïne, Ciocio San, qui n'était pas vraiment une geisha, mais une jeune fille de 15 ans, une noble déchue, dont les parents n'avaient plus d'argent.
Ouais.
Et donc l'homme, je ne vais pas dire le héros.
Non, mais peut-être pas.
Bon, le personnage principal masculin, c'était Franklin Benjamin Pinkerton, un officier de la marine américaine, séducteur notoire, qui va être fasciné par Ciocio et qui va vouloir l'épouser à tout prix quand même.
Oui, ça à tout prix. Remarque qu'il a dû, payer un peu.
Voilà, mais non. Ça a été différent, je crois, pour lui.
Okay.
Alors, à savoir que Butterfly, c'était le surnom que Franklin Benjamin Pinkerton donnait à Ciocio. C'est lui qui l'appelait comme ça, Butterfly.
Ok, son petit papillon.
C'est ça.
Okay.
Alors, ils vont se rencontrer dans la maison que va louer Pinkerton. Donc, c'est un petit peu différent. En fait, la maison était louée avec des domestiques et avec Ciocio comme geisha.
D'accord.
Même si elle n'en était pas une.
Ok.
Donc, en fait, Pinkerton, il avait la maison et Chiocho dedans, prête à servir.
Ok.
Voir les choses aussi crûment.
Oui, d'accord.
Alors, Chiocho croira, bien sûr, à un amour sincère, on s'en doute.
Oh, bah tiens.
Mais Pinkerton considérait leur union comme temporaire et va repartir aux États-Unis peu de temps après, l'abandonnant sans prévenir, sans savoir qu'elle était enceinte.
Hop,
j'insiste
hop.
Quand même okay. là-dessus.
D'accord.
Alors, pendant 3 ans, Chiocho-san va attendre son retour avec l'espoir pour elle et pour leur fils, né bien sûr après le départ de Pinkerton.
Oui, bien sûr.
Et lorsqu'elle apprend finalement que Pinkerton
oui.
revient, elle sera bien sûr pleine d'espoir.
J'imagine.
Mais la vie est cruelle, bien Didier, on le sait bien.
Elle peut l'être, oui.
Pinkerton revient, mais accompagné de sa nouvelle épouse américaine,
ah bah
bien
tiens.
Sûr.
Parfait.
Alors, Chiocho sait qu'elle va devoir abandonner son enfant parce qu'elle va être prévenue hein, par sa
oui.
domestique de tout ça. Et elle va rencontrer la femme américaine.
Mm-hmm.
Et bah, Pinkerton, quand même, envahi par la culpabilité, arrivera trop tard auprès de Chiocho-san pour la sauver.
D'accord.
Puisque...
Oui, bah oui, oui, puisque l'opéra se termine donc avec le suicide de Madame Butterfly.
Voilà, tout à fait. C'est la scène finale,
ouais,
Didier.
C'est ça.
En effet, face à cette trahison et au déshonneur de perdre son fils, Chiocho-san va décider de se suicider pour préserver son honneur en
et...
utilisant le sabre court avec lequel son propre père s'était lui-même donné la mort.
Ah oui.
Et sur le sabre était gravé « qui ne peut vivre avec honneur ». Doit mourir avec honneur.
Ah oui.
Donc, je pense que pour se remettre de tout ça, on va écouter des airs principaux
bien
de
sûr.
Madame Butterfly. Et c'est la cantatrice russe Anna Nebrebko. Voix magnifique.
Bon, alors je sais que c'est un petit peu compliqué de couper ça.
Oui, c'est cruel.
Je
aussi.
Sais, mais
comme
d'habitude, on court après le temps. Et là,
c'est vrai,
pour
Didier.
Un opéra, ça va être trop court à Zialogy. Hein.
C'est vrai, on va réclamer du temps en plus,
c'est
Didier,
ça.
Dans certains cas.
Alors du coup, par contre, vous êtes toujours sur Zialogy, ça vous l'aurez compris, et on retourne donc vers Madame Butterfly. Madame
oui.
Butterfly, en fait, qui tout simplement se fait donc... c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment
c'est
tragique.
Ça. C'est vraiment tragique. C'est très poignant, et la musique de Puccini est... vraiment
le
très
tout
poignante.
Autant, oui, bien sûr.
Alors, la mort de Chiocho symbolise le sacrifice ultime d'une femme qui a tout donné à un homme complètement ignorant de sa culture.
Mm-hmm.
C'est une tragédie de l'abandon et de l'injustice avec la fin dévastatrice avec le seppuku.
Eh
alors,
oui.
Qu'est-ce que c'est que le seppuku ?
S'il te plaît.
Oui. Alors, c'est la version, on va dire, plus spirituelle et authentique du mot utilisé en Occident Harakiri. En fait, les Japonais n'utilisaient pas le mot harakiri. Mm-hmm. Alors pourquoi nous, on a utilisé harakiri? Je n'ai pas la réponse. C'est un peu un espèce de dévoiement de seppuku. Enfin, ça ne ressemble pas à seppuku, mais...
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
C'est aussi japonais, harakiri. Oui, hein, ça veut aussi dire couper le ventre, puisque seppuku, c'est ce que ça veut dire.
Okay.
Mais les Japonais utilisent le terme seppuku, j'insiste.
Okay.
Voilà. Et donc, c'est le suicide rituel par éventration.
Mm-hmm.
Et c'est une pratique samouraï.
Oui.
Voilà. Et donc, il est réservé, cet acte, en fait, à la classe donc, des samouraïs.
Mm-hmm. Hein,
pratique samouraï, mais réservé aux samouraïs.
Mm-hmm.
Et ça avait une forte dimension cérémoniale. C'était un acte d'honneur codifié selon le Bushido, la voie du guerrier. Et c'était à commettre après un échec, une trahison ou une capture imminente, plutôt que de subir la honte et la disgrâce.
Bien sûr.
Voilà. Alors, il y avait un protocole précis. Hein,
j'imagine bien.
Il fallait s'asseoir dans une position formelle, déclarer ses derniers mots, des poèmes le plus souvent, et s'ouvrir l'abdomen avec un tanto, c'est un sabre court, hein, en traçant une coupe horizontale, parfois suivie d'une coupe verticale pour une éventration complète.
Oui, sympathique.
Voilà. Alors, il y avait quand même la possibilité d'avoir un assistant qu'on appelle le Kaisha Kunin.
Ouais.
Et c'est pour décapiter.
C'est ça, oui, j'avais souvenir de ça.
Pour,
à la fin,
pour éviter les souffrances.
Souffrances trop importantes.
Voilà.
Ok. Bon, alors, aujourd'hui, j'imagine quand même, rassure-moi, Corinne.
Oui.
C'est une pratique révolue, ça.
Oui, c'est une pratique révolue. Mais le seppuku est toujours évoqué dans l'histoire, la littérature et les arts japonais d'aujourd'hui.
D'accord.
Il reste un symbole de l'engagement total envers l'honneur et la loyauté. Hein.
Oui.
On sait bien que ce sont des valeurs essentielles. On avait vu ça, hein, les valeurs du confucianisme japonais. Voilà. Donc moi, Didier, je sais que tu nous as préparé une pause musicale pour annoncer ton sujet.
Voilà.
C'est une chanson qui s'appelle Les Kamikazes, mais c'est une chanson militaire,
c'est ça? C'est ça, c'est une chanson militaire de 44-45.
Très nostalgique, je crois.
Ah, oui, vous allez pouvoir découvrir immédiatement.
Didier, merci pour cette pause très très nostalgique raconte.
On ne peut pas dire le contraire.
Non, on ne peut pas dire le contraire. Donc, les Kamikazes, c'était sur Radio Alpa, 107.3 dans Asialogie. Bon, Didier, maintenant, tu vas nous expliquer qui sont les Kamikazes en vrai.
Alors, le mot Kamikaze, en fait, signifie littéralement vent divin. Donc, un terme qui fait référence au typhon qui aurait détruit au XIIIe siècle la flotte mongole de Kublai Khan, qui voulait envahir le Japon. Eh oui, on le retrouve de temps en temps. Oui. Ce mot a été réutilisé pour désigner les pilotes suicides de l'armée impériale japonaise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les attaques kamikazes sont nées lors de la guerre du Pacifique. À partir de 1944, le Japon va adopter des stratégies désespérées pour faire face aux forces alliées. Ils étaient débordés. L'objectif des attaques kamikazes était de causer un maximum de dégâts, bien sûr, particulièrement aux porte-avions américains. Alors, la première attaque kamikaze a eu lieu aux Philippines en octobre 1944. Cette méthode était perçue comme l'ultime sacrifice pour protéger la patrie et restaurer l'honneur du Japon.
Alors, comment s'étaient organisées ces attaques? Elles n'ont pas duré longtemps, en fait. Hein. C'est sur une année,
oui,
même pas.
Oui, c'est pas si long. Alors, les unités kamikazes étaient composées de soi-disant volontaires, de jeunes pilotes, souvent contraints sous la pression sociale et militaire. Ces unités étaient constituées de pilotes d'avions. Alors, il y avait aussi des sous-mariniers, parce qu'il y avait aussi des attaques sous-marines par sous-marins. C'est une sorte de torpille suicide. J'ai pas beaucoup d'explications sur ce fait-là, mais bon, alors on connaît plus, bien sûr, les attaques par les avions. Bon, les appareils utilisés étaient souvent des vieux avions trafiqués, comme des Mitsubishi Zero. Le Zero, on connaît bien ça, on a déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu cette période. Alors, environ 3800 pilotes, hein, quand même, kamikazes se sont sacrifiés durant
en peu de temps.
Cette guerre. Oui. Ils ont coulé tout de même ou endommagé plus de 400 navires alliés, causant la mort de 7000 soldats américains, puis en blessant en gros 10000 autres aussi.
Oui, donc ils étaient efficaces. Hein.
Alors, leur efficacité était réelle, mais ça n'a pas inversé le cours de la guerre. Et alors, j'ai quand même lu des articles sur le taux d'efficacité qui est quand même pas si énorme que ça. Il y a aussi beaucoup de kamikazes qui tombaient dans l'eau juste avant ou alors qui étaient mitraillés et qui n'arrivaient pas à leur cible.
Oui.
Donc ça n'a pas vraiment inversé quand même le cours de la guerre.
Donc ces attaques kamikazes ne nous ont pas, nous, concernés directement. Elles ont concerné les Américains. Mais elles nous ont laissé des traces dans notre propre culture occidentale. Enfin bon, les États-Unis, c'est l'Occident, bien sûr.
Oui, bien sûr. Ah, oui, les pilotes kamikazes étaient des héros dans la propagande officielle. Ils étaient censés donner leur vie pour l'empereur, considéré comme une figure divine, et donner leur vie pour la survie du Japon. Alors, ces attaques ont montré le désespoir du Japon face à la supériorité des alliés, quoi.
Oui.
Aujourd'hui, dans la culture populaire, c'est ça. Les kamikazes sont devenus un symbole controversé. Hein. D'un côté, ils sont perçus comme des héros nationalistes, et de l'autre, comme des victimes d'un régime oppressif, tout de même. On peut dire que le Japon moderne a un rapport ambivalent avec cet aspect de son passé, tout de même.
Oui.
Donc du coup, ces kamikazes...
Ah, mais que faisaient... Oui, voilà.
Avant de partir...
Qu'est-ce qu'ils faisaient, Didier, les kamikazes?
Ils avaient quelques rituels, t'imagines bien, on est au Japon. Hein.
Oui.
voici ce qu'ils faisaient, en fait. Généralement, avant leur départ, ils allaient dans un sanctuaire Shinto pour prier et demander la protection divine.
Oui, puisque c'était le vent divin.
Bien sûr.
Le vent de l'empereur, en
fait. Voilà, c'est ça.
Donc forcément Shinto.
C'est ça. Ils portaient sous leurs vêtements des omamori, des amulettes sacrées pour renforcer leur lien avec leurs ancêtres et apaiser leur esprit avant leur sacrifice. Ils écrivaient une lettre d'adieu à leur famille ou des poèmes pour exprimer leur amour et leur loyauté envers l'empereur et leur fierté d'accomplir leur mission. Ils avaient aussi un dernier repas cérémonial, souvent composé de riz blanc, de thé, pour marquer leur dernier moment de vie terrestre. Mais... ils buvaient aussi du saké avec leurs camarades.
Oui, j'ai entendu dire qu'ils buvaient pas mal, en fait, avant de monter dans l'avion.
Je pense que pour leur efficacité, dans certains cas, ça n'a pas aidé
Il fallait mieux qu'ils soient un petit peu inconscients.
Je pense, oui. Ils portaient donc un uniforme propre avec un bandeau blanc appelé le hashimaki, sur lequel étaient inscrits des messages patriotiques.
Oui, c'est
l'image
vrai.
Qu'on connaît.
Oui, c'est l'image qu'on connaît bien.
Après les discours de leurs supérieurs et après avoir médité, ils montaient dans leur avion sous les banzaïs de leurs camarades, mot qui signifie longue vie à l'empereur, tout ça pour les aider à accepter leur sort et à trouver un sens à leur sacrifice.
Oui, mais il fallait bien ça.
Je pense.
Alors, est-ce qu'il y a des monuments à leur mémoire au Japon, Didier?
Alors, oui. On peut bien sûr visiter à Tokyo, il y a le fameux sanctuaire Shinto Yasukuni qui est dédié aux âmes des soldats japonais morts au combat, y compris donc les pilotes kamikazes. À côté de ce sanctuaire, on peut visiter le musée Yushukan, le plus ancien musée militaire du Japon. Puis alors, ce musée n'est pas exclusivement consacré aux kamikazes, bien sûr, mais il propose aussi des expositions sur leur histoire et leur propre rôle. On peut y voir des objets personnels, des lettres d'adieu, des photographies des pilotes et une statue en bronze d'un jeune kamikaze à l'entrée du musée. Bon, pour une immersion plus profonde, plus approfondie, dédiée spécifiquement aux pilotes kamikazes, il y a au sud du Japon le musée de la paix de Shiran, construit en 1975. Alors Shiran, c'est étant une petite ville et une base aérienne d'où sont partis les derniers kamikazes.
Ah oui, donc c'est pour ça que c'est à Shiran, ce musée-là.
Voilà, c'est ce qui explique que ce musée est là-bas. Et là, vraiment, c'est une immersion plus complète dans le monde des kamikazes. Donc, comme on l'a dit, hein, malgré tout, assez controversé aujourd'hui.
Surtout le temple Yukusumi. Il y a eu un ministre, je ne me souviens plus du nom du ministre. Hein, qui.
J'ai plus le truc non plus.
Bon, ça, on en reparlera de toute façon.
Voilà, ce sera plus simple.
Qui s'était rendu à ce temple Yukusumi et il a été... critiqué dans le monde entier à cause de ça, parce que
c'est ça, comme on l'a dit, il y a une ambivalence aujourd'hui, voilà. Il y a le côté nationaliste, puis il y a le côté tragique, parce que quand on lit les lettres d'adieu, j'ai lu quelques lettres d'adieu, bon, il y en a qui sont très très patriotes et qui vont vraiment vers ce patriotisme exacerbé, et d'autres quand même, je sais, qui ont fait passer
des
mots.
T'as senti la contrainte.
C'est ça, et puis il y a eu quelques mots qui sont passés aux familles alors que c'était normalement pas autorisé, avec des jeunes qui témoignaient, qui ne voyaient pas l'intérêt de ce sacrifice ultime, malgré la loyauté qu'ils avaient pour leur pays, pour le Japon, pour leur famille, bien sûr. Oui. Mais voilà, ça devenait assez incompris et difficile à vivre. Ça, on l'imagine plutôt bien quand même.
Oui, il y avait un livre que nous avait recommandé Linda, une série de 5 livres, Le poids de secret, qui parle de tout ça.
Alors, on
aussi
va pouvoir se replonger dans le coin des secrets pour aller un peu plus loin.
Bon, Didier.
Oui,
les amis, c'est fini Asialogie. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter samedi matin à 9h30 et bien sûr en podcast et toujours sur Radio Alpa 107.3 ou radioalpa.com. Salut.
Très bien. Alors à bientôt, avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.